3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, la tension monte d'un cran entre l'Algérie et la France. Le Premier ministre François Bayrou menace de remettre en cause les accords de 1968. Une annonce quelques jours après l'attentat de Mulhouse. On fait le point en début de journal. Les Européens face au dilemme des garanties de sécurité à l'Ukraine, car les États-Unis ne veulent pas s'en occuper. Les dirigeants des 27 cherchent encore à s'entendre. Dans ce journal également, Donald Trump veut s'en prendre à la presse. Et puis, dans l'océan Pacifique, l'île de Nauru propose des passeports à vendre. Pour lutter contre la montée des eaux, l'initiative n'est pas sans risque. La France va demander à l'Algérie de réexaminer la totalité des accords de 1968, annonce du Premier ministre François Bayrou ce mercredi. Une décision prise sur fond de tensions entre Paris et Alger et de débats en France autour de la question migratoire. L'Algérie avait refusé de recevoir des ressortissants algériens sur lesquels planait une obligation de quitter le territoire. Le gouvernement français a donné un délai de 4 à 6 semaines pour examiner cette demande, sous peine de dénoncer cet accord. Pierre Vermeuren, historien spécialiste du Maghreb, revient sur le contenu de ce texte.
C'est le traité de 68 qui a été révisé 3 fois et qui concerne la circulation et l'installation et aussi le régime des visas des Algériens en France. Cette circulation bilatérale qui avait été prévue à Évian dans les deux sens de circulation, si je puis dire, s'est resserrée à partir de 68 autour de la question de la migration vers la France et notamment de travailleurs. Alors évidemment, les choses ont changé depuis 73-14 quand l'Algérie a bloqué les migrations du travail et que la France, à la fin des années 70, a instauré le regroupement familial. Aujourd'hui, cette migration, elle concerne surtout le regroupement familial, les étudiants, plus que les travailleurs, mais elle permet aux Algériens d'échapper au régime général des migrations vers la France et de bénéficier encore d'un certain nombre de privilèges. Un seul exemple, le droit pour les Algériens, notamment les étudiants, de rester en France après leurs études en déclarant une activité commerciale, même si celle-ci n'est pas forcément avérée.
Des propos recueillis par Paul Lorgerie. Les États-Unis n'accorderont aucune garantie sécuritaire à l'Ukraine. L'Europe s'en chargera. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump ce mercredi soir. Autre annonce qui fait grincer les dents des dirigeants de l'UE, celle d'imposer 25% de droits de douane sur les produits européens. De son côté, Emmanuel Macron s'exprimait aujourd'hui sur sa visite à Washington avec les membres du Conseil européen. À l'ordre du jour, l'implication européenne dans la résolution du conflit avec la Russie, mais aussi les garanties sécuritaires pour l'Ukraine. Lila Olkinyura, les Européens cherchent encore à s'entendre.
D'abord sur l'envoi de troupes. Pour pallier un désengagement américain, il faudrait réunir 300 000 soldats européens. Keir Starmer a avancé des propositions en ce sens, évoquant le déploiement d'une force de réassurance en Ukraine. Le premier ministre suédois Ulf Kristersson n'exclut pas non plus la possibilité d'un envoi. Il s'exprimait ce mercredi après-midi après une rencontre avec Giorgia Meloni.
Atteindre la paix par la force est essentiel et la situation de l'Ukraine ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais aussi l'avenir du reste de l'Europe.
Une position qui n'est pas partagée par tous les dirigeants européens. Pour l'italienne Giorgia Meloni, il ne peut y avoir de paix juste et durable que dans le cadre de l'OTAN.
J'ai la conviction que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être réalisées dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Je pense que c'est le meilleur cadre pour garantir une paix qui ne soit ni fragile ni temporaire et qui justement écarte le risque que l'Europe ne retombe dans le drame de la guerre. Les autres solutions me semblent plus complexes et franchement moins efficaces.
Mais après la déclaration de Trump qui désengage les États-Unis de toute garantie de sécurité pour l'Ukraine, les Européens vont encore devoir revoir leur stratégie et surmonter leur division.
Ce mercredi soir, Emmanuel Macron a rencontré Friedrich Merz, le probable futur chancelier allemand. Un dîner pour relancer le couple franco-allemand, mais aussi pour parler de la guerre en Ukraine. Autre rencontre, celle entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils se verront dimanche à Londres lors d'un sommet avec des dirigeants européens sur la défense de l'Europe. Après les droits de douane, l'immigration ou encore le gel de certaines dépenses publiques, Donald Trump veut s'attaquer aux auteurs et aux médias qui s'appuient sur des sources d'informations anonymes. Une réaction suite à la sortie prochaine d'un livre qui promet des révélations sur sa campagne présidentielle. C'est la deuxième attaque directe contre les médias depuis le début de la semaine de la part du président américain. Ce mercredi, les journalistes qui couvrent les événements présidentiels ont appris que les règles d'accès au bureau ovale et à l'entourage directe de Donald Trump à l'échanger. Abla Junaidi.
C'était un vieux privilège des journalistes suivant au quotidien les activités du président américain. Choisir qui d'entre eux pouvait former un petit groupe, le pool, et interroger en petit comité le chef de l'État à bord de l'Air Force One ou dans le bureau ovale. La Maison-Blanche l'a retiré mardi. Levée de bouclier de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, garante traditionnelle de ce droit. Cette décision, proteste l'association, donne la main au gouvernement. De son côté, la Maison-Blanche se défend de vouloir limiter le droit de la presse. Les médias traditionnels qui sont ici depuis des années participeront toujours au groupe, dit-elle, mais de nouvelles voix seront également les bienvenues, une référence aux influenceurs et autres journalistes de médias en ligne. Mais cette décision intervient au moment où une agence s'est fait interdire l'accès au pool, et pas n'importe laquelle, l'Associated Press, AP, son tort, avoir refusé de nommer le golfe du Mexique « golfe d'Amérique » comme l'a décrété le président américain.
Un autre milliardaire américain s'attaque également à la presse. Il s'agit de Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post annonce limiter les tribunes du journal à certaines opinions. Le responsable des pages économiques du Washington Post, Jeff Stein, a dénoncé un empiètement massif de Jeff Bezos. Avant l'élection présidentielle de novembre, Jeff Bezos avait notamment empêché le Washington Post d'appeler à voter pour Kamala Harris, alors que les recommandations de vote par les comités de rédaction sont une tradition aux États-Unis. Direction l'île de Nauru, dans l'océan Pacifique, l'un des plus petits états insulaires au monde menacé par le réchauffement climatique et à la recherche de fonds pour lutter contre la montée des eaux. L'île a trouvé une solution atypique, vendre ses passeports à des étrangers au prix de 135 000 euros. Mais Yelena Tomic, l'initiative n'est pas sans risque.
Nauru est une île de 21 km² qui ne compte que 12 000 habitants installés dans leur majorité sur la bande côtière de l'île. Sous l'effet du réchauffement climatique, la montée des eaux commence déjà à ronger son littoral. Selon des experts onusiens du climat, Nauru, tout comme les Maldives, les îles Tuvalu ou Kiribati, seront inhabitables d'ici 2100. Le gouvernement a donc décidé de lancer un ambitieux projet de déplacement de sa population vers le centre de l'île plus élevé. Mais l'initiative coûte cher car ce plateau central, autrefois riche en phosphate, exploité pendant des décennies et qui avait fait la richesse de ses habitants, est aujourd'hui inhabitable. Pour financer ces importants aménagements, dont le coût est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, le gouvernement propose de vendre sa nationalité. Mais le programme n'est pas sans risque. Pour éviter que ce passeport doré soit utilisé à des fins criminelles, comme fuir la justice d'un pays, blanchir de l'argent ou qu'il soit octroyé comme il y a une vingtaine d'années à des terroristes, le gouvernement a promis des contrôles rigoureux. Le passeport offrira aux acheteurs un accès sans visa à environ 90 pays.
Taïwan dit avoir détecté 45 aéronefs chinois en 24 heures, un record cette année. Ce jeudi, l'archipel avait déployé des forces autour de l'île après des manœuvres chinoises. Des tirs réels ont été recensés, pas de commentaires de la part de Pékin. En France, 5 patrons de la grande distribution côte à côte au salon de l'agriculture. L'image de ce mercredi matin est assez rare. Si le numéro 1 Leclerc manque à l'appel, les autres enseignes se sont engagées sur 3 actions pour soutenir les agriculteurs. L'une d'elles vise à créer un label pour les agriculteurs les plus en difficulté. L'idée est bonne, salue Guy Durand, mais cet éleveur du Vercors se méfie des promesses de la grande distribution, car elle est accusée de tirer les prix vers le bas au détriment des paysans.
Des labels, il y en a tout plein, des idées, il y en a tout plein. Elles sont toutes louables. Simplement, il faut qu'il y ait une charte, il faut que ce soit encadré. Aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à dire que la grande distribution est un allié. Comprenez bien que c'est pas mes ennemis, parce qu'on a besoin d'eux, hein. On peut pas faire autrement. Mais dire que c'est un allié, c'est compliqué quand même, parce que on est un petit peu otage de la grande distribution, et le client est otage de la grande distribution. Ceux qui craignent le moins, ils sont au milieu, ils prennent le besoin qu'ils ont, et puis les autres, démerdez-vous. Mon problème, il est là, pour moi. Moi, je suis au départ de la chaîne, puisque je fabrique. Donc, souvent, c'est la grande distribution qui fait le prix. C'est pas le paysan qui fait le prix. Parce que ça saurait sinon, ou du moins il serait un peu plus riche et il serait pas en difficulté justement.
Et puis en football, quart de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain ne laisse aucune miette à Saint-Brieuc, victoire 7-0. Pas d'exploit pour les Bretons, contrairement à Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, qui s'impose à Brest 3-2.